1999, le téléphérique du Pic de Burlachet.
20 victimes ont péri dans ce drame. Aujourd'hui, le téléphérique est neuf, mais le 21 novembre dernier, un câble porteur a lâché. Inquiétude donc dans le dévolu.
La pêche veut se développer dans les Hautes-Alpes.
La Fédération départementale a lancé une grande enquête sur Internet pour mieux connaître les pratiques, les attentes et les besoins des pêcheurs.
Une meilleure offre de santé pour plus d'attractivité.
C'est le pari de la municipalité de Digne-les-Bains qui compte beaucoup sur l'impact de sa future maison de santé dont l'ouverture est prévue en mars.
Et puis avarie en pleine mer hein, pour le skipper au alpin sur le Vendée Globe.
Romain Attanasio a les deux safrons de son monocoque endommagé. Il tente une réparation sans assistance au Cap en Afrique du Sud.
Et alors les safrans c'est pas du tout pour faire la cuisine sur le bateau, hein, je vous le dis. Hein. Oui, c'est important parce qu'on va dire
Cap, prendre quelques
s'il a plus de safran c'est pas bien grave, hein, il a commandé d'autres épices. Hein. Non, c'est, ce sont les safrans, vous savez. Hein. Alors qu'est-ce que vous voulez savoir?
Eh bien le temps d'aujourd'hui.
Il fait beau.
C'est du grand beau temps. Des températures, les maxi cet après-midi en Valais, de 10 à 15 degrés sur nos deux départements et soleil.
L'actualité des Alpes du Sud avec évidemment le téléphérique de Bure dans le dévolu. Alors on en parle pourquoi? Parce qu'il est à l'arrêt total depuis maintenant deux semaines.
Un incident technique qui remonte au 21 novembre dernier. Aucune date de remise en route n'a été fixée. L'un des câbles porteurs transportant du matériel a lâché. De quoi évidemment réveiller des souvenirs malheureux. En 99, 20 personnes ont péri dans la chute d'un télécabine. Alors, si le téléphérique est aujourd'hui neuf, tout est-il mis en œuvre pour éviter une nouvelle catastrophe? Cyrielle Michard.
Vers 7h30, la cabine du téléphérique du Pic de Bure s'est écrasée après une chute de 80 mètres dans le vide, faisant 20 victimes.
Il ne reste... Cet accident du 1er juillet 1999 est dans toutes les mémoires de Haut-Alpin. En ce matin, une cabine se décroche, plongeant dans sa chute 20 personnes à la mort. Octobre 2015, après d'importants travaux, le téléphérique de Bure est remis en service. D'une longueur de 4040 mètres, c'est le plus long va-et-vient de France, équipé d'un côté d'une cabine pour le transport de matériel et de l'autre d'une cabine pour le transport des personnes, notamment celui du personnel de l'IRAM qui mène son projet d'observatoire en haut du plateau de Bure. Mais un peu plus d'un an après sa mise en service, le téléphérique est à l'arrêt total suite à un incident technique, comme le précise l'IRAM. Le 21 novembre dernier, l'un des quatre câbles porteurs lâche au niveau de la voie matérielle. Pas de blessés, mais d'importants dégâts. Vivien Valdener a été dépêché sur place. Il est le chef du bureau Alpes du Sud du STRMTG, le service technique des remontées mécaniques et transports guidés, la main ouvrière du préfet pour suivre les installations des remontées mécaniques.
Déraillement généralisé avec, au niveau du pylône 3, un des câbles porteurs qui ont pour la fonction uniquement de supporter le poids des véhicules, qui est au sol au niveau du pylône 3. Là, c'était un événement, on va dire, important au niveau des dégâts matériels sur l'installation. De mémoire du STRMTG, personne n'a vu encore de déraillement de câble porteur au sol. C'est un événement assez très rarissime.
Les travaux de remise en état seront donc longs. Un cabinet de maîtrise d'œuvre privé a été missionné pour gérer ces opérations. Mais une question se pose. Ce type d'incident aurait-il pu se dérouler sur la cabine transportant des personnes et ainsi reproduire l'accident mortel de 1999? L'IRAM s'appuie sur le fait que le personnel n'est pas en danger. En effet, ce matin du 21 novembre, face aux conditions météorologiques, il aurait été décidé de ne transporter aucune personne. La décision humaine ne serait-elle que le seul rempart de sécurité pour les passagers aujourd'hui? Vivien Valdener.
Tous les remparts, je dirais, ont permis d'éviter que l'événement puisse se produire avec des personnes sur la ligne, en effet. Donc le préfet aujourd'hui a prononcé la suspension de l'installation et on n'a pas encore défini complètement les conditions de reprise de l'exploitation. Donc comme je disais d'ailleurs, il y aura probablement des améliorations tant au niveau de la conception du système qu'au niveau des mesures d'exploitation aussi qui pourraient être plus restrictives encore demain. Les mesures d'exploitation actuelles permettent d'assurer la sécurité des usagers. Pour ce qui est de la sécurité du matériel, on était probablement un cran dessous.
Un diagnostic va être réalisé. Plusieurs hypothèses sont envisagées à l'heure actuelle, mais il est toujours trop tôt pour faire une conclusion car le véhicule de transport de matériel sur lequel se trouve des indices est toujours suspendu au dernier câble porteur. Il faudra donc qu'il soit rapatrié.
Et si pour le STRMTG, l'accident de 1999 n'a aucun lien avec l'incident de 2016, pour d'autres, on craint de réécrire l'histoire.
Selon Selon une source proche de ce dossier, la nouvelle machine serait moins sécurisée que l'ancienne. Des problèmes qui étaient, toujours selon cette source, écrits de la construction avec une mauvaise conception. Une source qui apporte aujourd'hui plusieurs arguments. Il existe un rattrape-câble dans les téléphériques qui permet, lors d'un déraillement, d'éviter que le mécanisme et la cabine ne soient entraînés au sol. Un rattrape-câble qui aurait déjà servi lors d'un précédent déraillement avant la mise en route en 2015, mais pas lors de cet incident du 21 novembre dernier, ce qui témoignerait d'une fragilité de l'installation. De plus, toujours selon cette source, cet incident aurait pu se produire côté passager, car les câbles sont identiques, le mécanisme est le même et la ligne matérielle est autant sécurisée que la ligne passager. Plus grave encore, alors que d'un côté on nous précise que le téléphérique ne transportait personne, selon plusieurs sources cette fois, deux personnels se seraient trouvés à bord d'une cabine passager avant de s'évacuer à l'aide d'une corde, alors qu'il est interdit de faire fonctionner le téléphérique avec du matériel et des passagers en même temps.
Merci Cyril, et retrouvez ce dossier en ligne sur alpe1.com. Un homme victime d'un traumatisme facial après un accident de ski, c'était hier vers 14h à Serre-Chevalier. L'homme de 56 ans, un touriste français, a été évacué sur l'hôpital de Briançon.
Une enquête en ligne lancée pour mieux connaître les pêcheurs des Hautes-Alpes.
Elle est lancée par la Fédération départementale de pêche qui participe à l'écriture du SDDLP, schéma départemental du développement du loisir pêche. L'idée est d'améliorer et de moderniser les équipements et les lieux de pêche tout en renforçant l'accompagnement des amateurs. L'objectif est de satisfaire tous les publics pour Davis Davudian, agent de développement au sein de la Fédération de pêche des Hautes-Alpes.
On a une partie qui est vraiment sur le pêcheur lui-même, donc son âge, son sexe bien sûr, sa catégorie socio-professionnelle et son département par exemple. Ensuite on va venir rentrer un petit peu plus dans le détail sur sa pratique de pêche, le nombre de jours où il pratique dans l'année, les mois où il pratique dans l'année, est-ce qu'il possède une embarcation, toutes sortes de questions qui permettent de cibler au plus près nos pratiquants. Ah. Et ensuite, on entame un pavé qui est un peu plus sur le pêcheur, on va dire, touristique. Donc le pêcheur qui viendrait faire un séjour chez nous pour connaître les motivations de pourquoi avoir choisi les Hautes-Alpes. Est-ce qu'il reviendrait dans les Hautes-Alpes? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi aussi, pour essayer de s'améliorer? Et enfin, on termine aussi sur tous les outils que nous utilisons à la fédération, autrement dit tous nos moyens de communication, c'est de savoir si les pêcheurs les connaissent et s'ils les connaissent, ils peuvent nous les noter pour connaître les outils qu'ils préfèrent.
L'enquête est ouverte jusqu'au 31 janvier. Plus de 1000 participants sont espérés. Vous la retrouvez sur notre site alpe1.com. Une convention a été signée entre l'État, les Hautes-Alpes et la commune de Saint-Léger-les-Mélèzes. À travers le dispositif d'appui financier accordé au territoire à énergie positive pour la croissance verte, le conseil départemental va pouvoir promouvoir les énergies vertes avec la rénovation de l'éclairage public, le renforcement du parc de véhicules électriques, la réalisation d'une plateforme multimodale à Saint-Jean-Saint-Nicolas ou encore la réhabilitation thermique des centres techniques de Château-Quérat, Théus et Aiglier. La commune de Saint-Léger-les-Mélèzes veut, elle, produire des énergies renouvelables, créer un complexe sportif et culturel et revoir la qualification urbaine et architecturale du village. 500 000 euros ont été accordés à ces deux territoires.
Il sera désormais possible de manger en altitude, en station, après la fermeture des pistes.
En 2014, dans le cadre de la loi sur la simplification de la vie des entreprises, un amendement autorisait le convoyage de la clientèle vers les restaurants d'altitude par motoneige. Mais le décret n'était toujours pas publié. C'est désormais chose faite, une possibilité offerte grâce au comité de massif des Alpes, puis par le Conseil national de la montagne, présidé par le député des Hautes-Alpes Joël Giraud. Ce seront au maire ou au préfet de réglementer la circulation sur les pistes vers ces restaurants d'altitude. Élu à la présidence de la CCI 04 en novembre dernier, Roland Gomez a tenté un coup double avec la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie de la région PACA. Une tentative qui s'est traduite par une défaite, mais le fondateur de l'entreprise Proman à Manosque obtient tout de même la première vice-présidence.
Elle ouvrira ses portes en mars 2017 à Digne-les-Bains. Elle, c'est la maison de santé Irène-Julio-Curie.
Un lieu pour lutter contre les problèmes de démographie médicale, mais aussi pour développer l'attractivité de la ville. Une maison qui veut regrouper plusieurs professionnels de santé. Laurent Colombani est le président du groupement pluridisciplinaire. Il nous présente les objectifs de cette maison de santé.
C'est déjà ce qui est en cours, c'est de créer une équipe homogène. Il y a les axes purement techniques avec l'importance de l'informatique, d'Internet et des logiciels pour vraiment, vraiment faciliter les dossiers médicaux du patient, pour pouvoir intégrer plus facilement toutes les données médicales, pour pouvoir les transmettre, bien sûr, en respectant le dossier médical du patient. Hein. Le patient reste propriétaire de son dossier et de ce qu'il veut que son professionnel donne aux autres. Voilà. Et ensuite, coordonner les pratiques, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un médecin qui travaille tout seul, une infirmière qui travaille tout seul. Non, c'est vraiment tout le monde qui... Il faut essayer de travailler tous en groupe. Voilà. Ensuite, les ambitions, ben, c'est que tous ces objectifs se réalisent et de créer un pôle d'attraction sur Digne-les-Bains pour donner envie à d'autres professionnels de santé de venir.
Des propos recueillis par Michel Bonnefoy.
Alpe 1 Sport. Romaric Ponce.
Romain Athanasio, le skipper alpin sur le Vendée Globe, contraint de réparer son monocoque après avoir percuté un ovni.
Un objet flottant non identifié, Romain Athanasio l'a heurté alors qu'il naviguait à environ 470 milles au sud du cap de Bonne-Espérance, lundi en début d'après-midi. Le skipper, alors 18e au classement du Vendée Globe, a constaté que les deux safrans de son monocoque étaient endommagés. Il tente actuellement une réparation au cap en Afrique du Sud. Romain Athanasio qui a déclaré, je cite, « Ne pas abandonner, je vais me débrouiller tout seul, sans assistance. L'idée est de trouver une baie abritée, de réparer et de repartir. Je ne baisse pas les bras. Je vais prendre une semaine dans l'affaire, mais cela n'est pas grave, l'aventure continue. » Romain Athanasio, dont nous suivrons évidemment l'évolution des réparations, c'est le seul skipper haut alpin, rappelons-le, qui est engagé sur ce Vendée Globe. Sébastien Ogier, toujours pas assuré d'être au départ du rallye Monte Carlo dans un peu plus d'un mois maintenant. Le pilote haut alpin a déclaré hier qu'il disposait de deux options pour la saison prochaine, sans bien sûr préciser lesquelles. S'il y a de fortes chances pour que la Ford Fiesta en soit une, l'autre reste un mystère. Citroën, Toyota ou même la Volkswagen Polo pourrait être concernée, dit-on, si celle-ci était engagée par une équipe privée. Le quadruple champion du monde dispose encore d'une semaine pour faire son choix et signer son contrat. La liste des engagés pour le Monte-Carlo étant arrêtée le 16 décembre prochain.
Merci Romaric.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com.